Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et maintenant, on attend donc, vous le disiez, la parole du président discret depuis le début du débat sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron sortira du silence demain à 13h lors d'un entretien télévisé. Alors que l'adoption du texte hier à l'Assemblée ne semble pas faire retomber la colère, loin de là, avant la grande journée de mobilisation annoncée jeudi, la grève se poursuit dans les raffineries. De premières réquisitions de personnel ont été ordonnées tôt ce matin. Pas de quoi décourager les grévistes, vous l'entendrez. Dans cette édition également, le retour d'Olivier Dubois sur le sol français. Le journaliste, otage pendant près de 2 ans des djihadistes au Mali, est attendu dans quelques minutes à Villacoublay. La vidéosurveillance intelligente en débat à l'Assemblée, prévue pour assurer la sécurité des JO de Paris 2024. Ces caméras couplées à des algorithmes nourrissent bien des fantasmes, on fera le tri dans 10 minutes. Et puis, oh capitaine, mon capitaine, chez les Bleus, il s'appelle désormais Kylian Mbappé. Et c'est la question du jour sur notre site RTL.fr. Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France de football. Est-ce le meilleur choix?
Ce n'est pas le plus jeune capitaine de l'histoire. Ça reste Michel Platini. RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous.
Et aujourd'hui à Cherbourg, sur les traces du Titanic. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien avec un sujet qui concerne toutes les femmes aujourd'hui, la ménopause, un mot tabou et des mots MAUX qui pourraient être mieux pris en charge. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, c'est votre rendez-vous culture, rendez-vous musical aujourd'hui avec le nouvel album de Christophe Maé.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. J'ajoute les carnavals parce que c'est la mi-carême demain.
La météo dès cet après-midi avec vous Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend?
Globalement c'est un temps calme mais surtout ça reste très doux.
Merci Peggy, les prévisions complètes à la fin du journal.
RTL midi.
Ce sera donc demain à 13h. Emmanuel Macron sortira du silence interrogé par nos confrères de TF1 et France 2 après l'adoption hier de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale grâce au 49-3 et avant une nouvelle grande journée de mobilisation attendue jeudi. Bonjour Thomas Desprez.
Bonjour.
Le président de la République parlera donc demain à 13h. Sait-on déjà ce qu'il a l'intention de dire?
Non, et c'est sans doute aujourd'hui l'un des secrets les mieux gardés de la République. Il faut remettre de la cohérence, souffle juste un de ses conseillers, mais ce matin, devant ses troupes, Emmanuel Macron a évacué les solutions les plus radicales. Ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. Entre nous, ça laisse plus grand-chose. Alors que dans la majorité, de plus en plus de voix s'élèvent en coulisses pour réclamer une prise de conscience. Il faut des réponses rapidement, m'écrivait tout à l'heure un député. Mais pas sûr que cette interview, demain à 13h, réponde complètement à ses attentes.
Et d'ici là, Emmanuel Macron va consulter à tout va.
Oui, il l'a redit ce matin devant des ministres et les chefs de la majorité. Faites-moi des propositions d'ici 2 à 3 semaines sur l'organisation de l'Assemblée nationale, sur les textes à venir. Une manière, comme à son habitude, de gagner du temps, des consultations qui vont se poursuivre toute la journée. À 13h, il recevra Gérard Larcher, le président LR du Sénat et la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, avant ce soir de recevoir tous les députés et les sénateurs de la majorité à l'Élysée. Peut-être que certains oseront à cette occasion lui dire ce qu'ils pensent dans les couloirs de l'Assemblée, qu'il faudra sans doute plus qu'une interview, mais un véritable Big Bang.
Et on en parlera plus longuement tout à l'heure. Thomas, on pourra s'interroger également sur le choix de parler à 13h, à un moment où la France quand même travaille. Donc ça sera une de nos réflexions. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces grandes interventions Covid étaient à 20h par exemple.
Exactement. Les interventions, c'était des discours. Là, c'est une interview. C'est pas la première fois. On se souvient, il avait répondu aux questions de Jean-Pierre Pernaut dans une école il y a quelques années. C'est pas la première fois qu'il parle à 13h.
Merci beaucoup à Thomas Desprez du service politique. On vous retrouve à 12h40 pour revenir sur cette intervention présidentielle attendue donc demain à la mi-journée.
Mais en attendant cette parole présidentielle, précisément, la mobilisation des opposants se poursuit et notamment dans les raffineries.
Et face à la pénurie de carburant dans le sud-est, notamment, les autorités ont ordonné de premières réquisitions de personnel dans le dépôt de Fos-sur-Mer près de Marseille, où la réaction des grévistes a été immédiate, Étienne Baudu.
Ah oui, immédiate. Ce sont plusieurs centaines de grévistes d'autres secteurs qui ont convergé vers le dépôt pétrolier de Fos, l'un des plus importants de France. Et certains sont venus de loin, d'Arles, Tarascon, Carpentras, à tout même encore Avignon, comme Clément Martinez de la CGT Énergie du Vaucluse.
Nous, on est contre cette réforme. On montre notre mécontentement et cette façon de faire, à nous, elle nous déplaît. Donc, c'est pour ça qu'on est là. On ne respecte pas le droit de grève. Après, le gouvernement joue sur les réquisitions. Nous, on vient en solidarité pour les collègues qui ont été requis, qui eux, avaient envie de faire grève aujourd'hui et de montrer leur mécontentement. Nous, on peut le faire. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est là.
Alors, 3 opérateurs du dépôt sur 7 ont été réquisitionnés cette nuit. Plusieurs dizaines de citernes ont pu sortir ce matin avant d'être bloquées. Et depuis un quart d'heure, on peut apercevoir des camions pénétrer à nouveau dans le site par une autre entrée. Les manifestants font désormais face à un cordon de CRS qui ont lancé et qui lance encore des grenades lacrymogènes pour protéger l'entrée du site.
Étienne Baudieu à Fos-sur-Mer pour RTL. Les préfets du Vaucluse et du Gard, eux, ont décidé de limiter jusqu'à jeudi pour l'instant les ventes de carburant à 30 litres par véhicule. Les ventes dans des jerrycans sont quant à elles interdites.
Après 711 jours de captivité, le journaliste Olivier Dubois est attendu dans quelques minutes sur le sol français.
Sur la base aérienne de Villacoublay, oui, près de Paris, où le président Emmanuel Macron accueillera celui qui a donc été détenu pendant près de 2 ans par les djihadistes au Mali, Émilie Bojard.
Oui, tout est prêt ici pour l'accueillir. Il sera reçu à sa descente d'avion par le président Emmanuel Macron et ses proches. Olivier Dubois ne devrait pas s'exprimer à sa descente, mais peut-être un peu plus tard. Selon ses collègues de Libération, le désormais ex-otage va bien, mais il est très fatigué. Sa libération puis son périple jusqu'au Niger ont pris plus de 48 heures dans des conditions dangereuses et difficiles. Mais ça y est, il est sur le point d'atterrir en France après 711 jours de captivité au Mali. Dov Alphon, le directeur de la publication de Libération, est très impatient de l'accueillir.
C'est une grande joie, c'est, je dirais, presque une allégresse. Un moment qu'on rêve, qu'on se projette dedans, ça fait 2 ans. Ça arrivera un jour, on arrivera au Mali, nous, ou bien lui, il arrivera directement en France. Et voilà, soudain on y est, et dans quelques minutes on va pouvoir le voir et l'embrasser. Et c'est une immense joie pour nous.
Ces conditions de libération sont pour l'instant tenues secrètes. On sait juste que le Niger, pays voisin du Mali, a joué un rôle important dans les négociations et la libération, mais on ne connaît pas encore les contreparties.
Émilie Bojard, donc sur la base de Villacoublay pour RTL. Et on rappelle qu'Olivier Dubois était le dernier Français connu comme retenu en otage par une organisation autre qu'un État, puisque 7 Français sont toujours, on le rappelle, détenus en Iran.
RTL Midi.
Et puis, si vous rêvez d'être volontaire lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, soyez aux aguets.
Car le portail pour s'inscrire ouvrira demain sur le site internet paris2024.org. 45 000 volontaires devront être recrutés. Et ça en fait rêver certains comme Pierre Durand, le champion olympique de saut d'obstacle en 88 à Séoul avec son mythique cheval Japlou. S'imagine déjà petite main dans un peu plus d'un an.
Les sports équestres, évidemment, naturellement, sont pour moi tout désignés. Mais j'aimerais bien être aussi volontaire sur des événements d'athlétisme. Et j'adorerais, par exemple, être derrière les athlètes qui vont prendre le départ d'une course dans le stade olympique et recueillir leurs survêtements ou autres. Vous savez, comme tous ceux qui ont le panier derrière. Et vivre au cœur du stade des moments aussi incroyables.
Pierre Durand avec Isabelle Langer pour RTL. La météo pour cet après-midi, Peggy Broche, c'est plutôt calme.
Oui, c'est vrai qu'on a un temps plutôt calme avec des nuages. Alors, ces nuages, ils sont en train de se diriger vers l'est du pays. On va essentiellement les retrouver entre le sud-ouest et les frontières du nord et le nord-est. Alors, avec quelques petites pluies entre les Ardennes et le Massif central, c'est pas grand-chose. Mais globalement, ça restera couvert avec quelques gouttes. Sur le sud-est, on va regarder un temps sec, souvent voilé, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse, où là, ce sera plus lumineux. Et sur l'ouest du pays, entre les Hauts-de-France, Île-de-France, la Bretagne, Normandie, en allant jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne, mais peu actif. On va retrouver de belles éclaircies avec quelques gouttes ici ou là, mais vraiment pas grand-chose. Et puis un peu de vent sur les bords de Manche. Tout ça sous des températures encore très douces. On est souvent 2 degrés au-dessus des normales, avec 13 cet après-midi à Brest, 14 degrés à Cherbourg et Lille, 15 du côté de Biarritz et Rouen, 16 degrés à Paris et à Limoges, 17 à Lyon et Bordeaux, 18 à Nîmes et Toulouse, et 19 degrés à Perpignan.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et chaque jour, l'info au plus près de vous. Et nous allons aborder un sujet qui nous fait rêver. Et on en a bien besoin actuellement, le Titanic.
Pour ça, nous prenons la direction de Cherbourg. Bonjour Frédéric Veil.
Bonjour.
Cherbourg, donc, où la Cité de la Mer vient de recevoir des reliques du Titanic. 43 nouveaux objets du paquebot mythique qui viennent compléter la collection normande.
Oui, c'est 43 objets qui étaient restés plus de 70 ans à 3800 mètres de profondeur. Bien, elles sont désormais placées dans quatre vitrines sécurisées. Il y a là des bijoux, des instruments de musique, des instruments de navigation, mais aussi des lustres et des objets personnels comme des peignes. Bref, ils proviennent bien évidemment de la société RMS Titanic et c'est seulement hier qu'ils sont arrivés en Normandie. Michel Rouget, le directeur de la Cité de la Mer.
Alors, ils ont voyagé en avion dans une caisse tout à fait sécurisée, extrêmement emballée comme vous pouvez l'imaginer. Et donc le moment d'ouverture de la caisse, de déballage des objets est toujours un moment tout à fait important parce que c'est là où on a la crainte de est-ce que tout a bien voyagé. Et donc voilà, je peux vous rassurer, tout a bien voyagé. Ah, donc tout va bien, voilà.
Et ces objets, Frédéric, on peut les voir sur votre compte Twitter. Vous les avez mis il y a quelques secondes. Et c'est vrai que c'est émouvant. Le public va attendre le 5 avril. Mais il y a une paire de chaussettes, il y a une carafe. Il y a quelque chose de très émouvant à voir ces objets.
Oui, oui, c'est surtout l'état de conservation de tous ces objets qui surprend. Je pense notamment, vous l'avez dit, cette paire de chaussettes, il y a un stylo plume, une boîte d'allumettes qui appartenait à William Allen. C'était un ouvrier britannique, passager de troisième classe, qui n'a malheureusement jamais rejoint New York. Ou encore le portefeuille en cuir de Bader Meinet. C'était une chanteuse de cabaret qui avait justement embarqué ici, à Cherbourg, le 10 avril 1912, soit quatre jours avant le naufrage. Bref, il y a une certaine émotion quand on regarde tous ces objets. Virginie Breneau est la responsable de l'exposition Titanic.
Oui, alors on met en lumière aussi évidemment le confort à bord du Titanic. Et donc on retrouve aussi dans ces vitrines des éléments très particuliers du très beau grand escalier qui est très renommé du Titanic, l'un des grands escaliers qui traversait six ponts du navire et dans lequel on va retrouver un des lustres et les perles de cristal qui ornaient ces lustres ou des éléments décoratifs de la balustrade du grand escalier. Et on est très surpris en effet de pouvoir les admirer de près et de pouvoir partager ça avec nos visiteurs et avec vous.
Merci beaucoup Frédéric Vaille pour ceux qui le souhaitent. Donc Pascal vient de le dire. Les images, elles sont à retrouver sur votre compte Twitter. Les curieux pourront les voir en vrai, ces objets, à partir du 5 avril. L'exposition se tiendra pendant...
C'est vraiment très très beau, très très beau.
Et pendant 2 ans. Merci beaucoup Frédéric.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On va parler de la vidéosurveillance dans un instant.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Après les retraites, la vidéosurveillance. Les députés ont commencé à examiner hier soir le projet de loi pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec là encore un article 7 très contesté, celui qui prévoit d'autoriser le couplage de la vidéosurveillance à un traitement algorithmique des images. Une vidéosurveillance intelligente, objet de nombreux fantasmes. On a donc voulu faire le tri avec vous, Guillaume Fard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité. D'abord, de quoi parle-t-on exactement quand on dit recours à la vidéosurveillance intelligente ?
En fait, ce que l'on veut dire quand on parle de vidéoprotection intelligente, c'est que vous avez des caméras qui vont, par définition, capter des images. Alors, il y a beaucoup de caméras, il y a des caméras mobiles, il y a des caméras fixes, il y a des caméras embarquées sur des drones. Ça, c'est tous les types de caméras. Vous avez plein d'images. Ces images, vous en faites quoi ? Vous les envoyez vers un PC sécurité. Donc, en fait, vous avez des écrans, des murs d'images, et derrière ces murs d'images, vous mettez des personnes. Donc, il y a des gens qui sont là pour regarder les images. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, surtout sur un grand événement comme les Jeux Olympiques, et pas non plus des centaines d'opérateurs pour regarder toutes ces images, il faut que s'il y a un événement, on puisse le détecter rapidement. Et en fait, ces algorithmes, parce que c'est un mot qui peut paraître comme ça un peu obscur, algorithme, ça veut simplement dire qu'il y a une mise en éveil des opérateurs qui regardent les images dès l'instant où il y a un comportement anormal. Par exemple, vous voyez quelqu'un par terre...
C'est-à-dire ça devient rouge
En fait, ça veut dire qu'on vous oriente l'image vers vous. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez quelqu'un qui est par terre, vous ne savez pas s'il est par terre parce qu'il a fait un malaise, parce qu'il refait son lacet, parce qu'il est victime d'un attentat. Tout de suite, la caméra intelligente va dire « Ah, dans ce flux de personnes, il y a quelqu'un qui est couché au sol, c'est pas normal. » Et on vous affiche l'image sur l'écran. Et après, c'est vous, en tant qu'opérateur, avec votre œil humain, de discriminer si la personne a effectivement fait un malaise ou si elle refait son lacet, ou si quelqu'un court parce qu'il est en retard, ou si quelqu'un court parce qu'il fuit quelque chose. Mais ça, c'est l'œil humain qui le fait. C'est pas la machine. L'algorithme vous aide, en fait, à détecter plus vite des comportements qui sont jugés anormaux.
Et le vrai fantasme, c'est d'imaginer que la caméra puisse reconnaître, par exemple, un délinquant qui était déjà affichée. Alors, est-ce que ça, c'est possible?
Ça, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance faciale.
Oui.
Alors, techniquement, c'est possible. Juridiquement, ça n'est pas permis et ça n'est pas dans la loi. D'ailleurs, pour tous les gens qui lisent la loi, non seulement c'est pas permis, mais en plus, il est écrit dans la loi que c'est interdit de faire un recoupement de fichiers avec de la vidéo intelligente. Concrètement, si c'était possible, ça existe dans d'autres pays, hein, la Chine en particulier, ça veut dire que vous prenez un fichier, donc avec des données biométriques, donc des données sur les visages, des données sur des caractéristiques physiques, des données d'identité, et après, la caméra est capable de vous dire si vous avez, oui ou non, la personne recherchée dans une foule. Ça, oui. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Mais la reconnaissance faciale, ça n'est pas permis dans la loi dont on parle. Et d'ailleurs, la loi dont on parle, il faut aussi préciser pour les auditeurs que c'est une expérimentation. Ça veut donc dire qu'on va tester ce dispositif, qu'il y a un début, il y a une fin. La fin, c'est le 31 décembre 2024 et après, il y a un bilan.
Voilà, avec un premier test peut-être dès le mondial de rugby.
Oui, absolument. Et ensuite, au 31 décembre 2024, il y aura un bilan, donc un rapport d'étape. Et si on veut pérenniser cette technologie, c'est-à-dire l'utiliser dans la durée, il faudra de toute façon une nouvelle loi.
Alors prenons un exemple concret. Si cette vidéosurveillance avait été utilisée lors de la dernière finale de la Ligue des Champions, est-ce que ça aurait changé quelque chose?
En fait, vous auriez peut-être vu plus vite qu'il y avait un flux de supporters très important à l'issue à la sortie du RERD et que ça avait congestionné, donc vous auriez vu ça un petit peu plus vite. Vous auriez vu aussi plus vite qu'il y avait des mouvements de personnes anormaux aux abords du stade avec des délinquants qui venaient, etc. Donc ça, vous l'auriez détecté un petit peu plus tôt. Maintenant, après, la question, c'est pas que la détection, c'est l'action. C'est qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez détecté.
Ça aurait été plus efficace pour intervenir, sans doute.
Ah, effectivement. Mais dans la loi dont on parle, il y a un article 12, alors qui est moins débattu que le 7, justement, qui tire les leçons du Stade de France, puisque maintenant, aller dans une enceinte sportive sans billets ou avec des faux billets devient une infraction pénale. C'est un des apports de la loi aussi.
La finale du Stade de France dont vous parliez, c'est évidemment
c'est
la finale
Madrid,
de Ligue
Liverpool,
des Champions.
Voilà. Avec effectivement les Anglais qui avaient été pointés du doigt.
Vous avez déjà un petit peu répondu, mais pour être très clair et très affirmatif, ce dispositif que la France souhaitait expérimenter ne permettra pas de m'identifier.
Non, non, parce que il n'y a pas de données à caractère personnel qui sont recoupées, il n'y a pas de biométrie, il n'y a pas de reconnaissance faciale. Après, je comprends les inquiétudes. Je comprends les inquiétudes. Des gens se disent, mais comme la technologie est mature, si demain elle était autorisée, imaginez tout ce que l'on pourrait faire. Mais tout cela est très hypothétique. Et puis ceux qui s'inquiètent de cela, moi je leur dis, attention, vous êtes combien à déverrouiller votre iPhone avec la reconnaissance faciale? Vous êtes combien à déverrouiller votre iPhone avec la reconnaissance faciale sans même savoir ce qu'Apple fait des données en question? Vous êtes des millions, peut-être même des milliards, mais au moins des centaines de millions par le monde à le faire, ça, dans un cadre sans contrôle, ou en tout cas avec des modalités de contrôle très restreintes. Et là, alors qu'il n'est pas question de reconnaissance faciale, on dit, attention, ce que les services de police, de gendarmerie, de renseignement ne sont pas autorisés à faire, ils pourraient le faire et il faudrait s'en inquiéter par avance. Il y a un peu de deux poids, deux mesures.
Écoutez, vous avez été parfaitement complet et puis on va suivre évidemment ce dossier qui nous intéresse grandement. Guillaume Fard, vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité. Et on peut vous retrouver régulièrement le soir chez nos confrères de BFM.
Notamment.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie et la vie ce midi de la moitié de l'humanité à un moment donné, puisque l'on va parler de la ménopause. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, car l'info, c'est ce qui fait aussi votre quotidien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument passionnant.
C'est le tango de la ménopause. Le début de l'ostéoporose. Tu comprends pas, bien que je t'explique. La vie d'une femme, c'est biologique. J'aurai plus jamais de menstrues.
Michel Bernier et son tango de la ménopause, alors que l'on a décidé de s'arrêter aujourd'hui sur une étape de la vie qui concerne toutes les femmes, la ménopause. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour à tous.
Spécialiste santé ici à RTL, la ménopause qui concerne donc toutes les femmes, à quel âge d'ailleurs, Odile ?
Alors évidemment, c'est très variable hein, d'une femme à l'autre. Alors en général, la ménopause, qui se traduit par l'arrêt des règles, survient entre 45 et 55 ans. L'âge médian, c'est 51 ans. Ça veut dire que la moitié des femmes de cet âge sont déjà ménopausées et l'autre moitié, pas encore. On le rappelle, c'est une étape normale dans la vie d'une femme, étape précédée de certains désagréments. Chez certaines femmes, ces désagréments passent totalement inaperçus, alors que d'autres en souffrent pendant plusieurs années.
Alors, on parle souvent des bouffées de chaleur, ce n'est pas le seul signe de la ménopause. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là, dans le corps, mais peut-être aussi dans la tête de
la femme ? Alors, c'est vrai, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les palpitations, ce sont un peu les symptômes phares. Mais il y a d'autres manifestations très fréquentes, comme les insomnies, les douleurs articulaires, musculaire, l'impression qu'on a mal partout, la sécheresse vaginale qui affecte évidemment les relations sexuelles et puis aussi toutes les sautes d'humeur que nous, on connaît les femmes. Petite leçon de science, Pascal et Céline. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps d'une femme au moment de la ménopause ? Eh bien, la ménopause, elle est déclenchée par l'épuisement de ce qu'on appelle la réserve de follicules ovariens. Ça veut dire que ce sont des petits sacs qui contiennent chacun un ovocyte qui sont stockés dans les ovaires. À la naissance, une petite fille possède 1 million d'ovocytes. Ce stock diminue progressivement tout au long de la vie et la ménopause s'installe lorsque le nombre de follicules ovariens est inférieur à 1000. À ce moment-là, les ovaires vont complètement arrêter de fabriquer des œstrogènes, des hormones. La muqueuse utérine cesse de s'épaissir chaque mois, c'est l'arrêt des règles et c'est cette chute d'hormones qui provoque une cascade de changements, la prise de poids, notamment la peau qui se modifie, la perte d'élasticité, l'accentuation des rides et ces sautes d'humeur.
Alors, comment on peut traverser au mieux cette période qui n'a pas l'air franchement marrante à vous écouter, Odile? Il y a des traitements qui existent?
Oui, alors il y a plein de solutions. D'abord, ça passe par une bonne hygiène de vie. On renonce un peu au tabac, moins d'alcool, moins de graisse, moins de sucre et une activité physique régulière.
C'est
et puis
bien.
En fonction du profil de la patiente, eh bien, on peut mettre en place, en effet, un traitement hormonal de la ménopause. Et c'est là que le bât blesse, parce qu'en France, il n'y a que 500 000 Françaises qui sont traitées médicalement. Il y en avait 2,5 millions il y a 20 ans. C'est la faute à une étude américaine, publiée en 2002, et qui assurait que ce traitement hormonal augmentait le risque de cancer du sein. Et donc, étude totalement remise en cause depuis de nombreuses années. Les femmes qui avaient été choisies pour cette étude, faut le dire, elles cumulaient de nombreux facteurs de risque, hein, l'obésité, le diabète. Aujourd'hui, tous les spécialistes l'affirment, le traitement hormonal change la vie des femmes. Il y a beaucoup d'avantages. Il bloque, par exemple, la perte osseuse. Il diminue de la moitié le risque d'ostéoporose extrêmement fréquent, le risque de fracture, donc. Il limite aussi l'évolution vers le diabète. Et il y a plein d'études, 7 au total, françaises et européennes, qui montrent l'absence d'augmentation de risque de cancer du sein. Et avec ce traitement.
Ce traitement, c'est jusqu'à la fin de la vie après ?
Non, absolument pas. Dans tous les cas, les médecins le recommandent de le prendre au moins pendant 6-7 ans afin qu'il y ait une action protectrice sur la densité osseuse et puis sur les artères.
Vous avez parlé de saute d'humeur, l'aspect psychologique de la ménopause.
Ouais,
il est très important,
ouais.
Il est sous-évalué.
Il y a beaucoup de femmes qui disent vivre très mal ce passage. Troubles de l'émotivité, anxiété, irritabilité, fatigue, dépression. Ça concerne quand même 40% des femmes ménopausées.
Odile, on a le sentiment que même si ça concerne tout le monde, en tout cas toutes les femmes, on en parle peu de la ménopause, ça reste un sujet tabou.
Oui, il y a beaucoup de non-dits, alors qu'on compte 14 millions de femmes ménopausées en ce moment. Hein. Alors, selon une étude récente baptisée ELISA, menée auprès de 5000 femmes, près de la moitié n'ose même pas en parler à leur médecin, en dépit d'un impact très important sur leur corps quotidien. Or, selon les médecins, 25% des femmes auraient besoin d'une prise en charge médicale. Il y a un appel d'un collectif baptisé All for Menopause, qui est constitué de gynécos notamment, et qui demande par exemple une consultation gratuite à 45 ans, dédié à ce bouleversement hormonal. L'un des obstacles, évidemment, c'est bien sûr le manque de spécialistes. Il y a 20 ans, 2000 gynéco-médicaux étaient en exercice. Ils sont plus que 800 aujourd'hui. Et 12 départements en sont totalement dépourvus.
Et je retiens effectivement un chiffre, 14 millions de femmes ménopausées, 500 000 simplement qui suivent un traitement.
Oui.
C'est moins de 5%.
Tout à fait, moins de 5%. Tout à fait.
Donc, faut suivre un traitement. C'est la recommandation que vous donnez. Suivre un traitement hormonal et en parler.
Et oser en parler,
on en a parlé ce matin, et à l'heure du déjeuner même, et on pourra en parler entre 13h et 14h30 avec les auditeurs, bien évidemment. Merci Odile, merci beaucoup. L'info va revenir dans une seconde avec peut-être des nouvelles informations de l'Élysée. Qui sait ? À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Praud, RTL Midi jusqu'à 13h.
Tout savoir ?
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
La grande édition de Céline Landreau à 12h30.
Il parlera dans un peu plus de 24 heures. Emmanuel Macron, très discret depuis le début des tensions sur la réforme des retraites, sera demain à 13h l'invité de nos confrères de TF1 et France 2 pour dire quoi ? Pas de dissolution, remaniement ni référendum a priori, tout ça alors qu'une nouvelle grande journée de mobilisation est prévue ce jeudi, que les manifestations spontanées, parfois émaillées de violence, se multiplient chaque soir dans plusieurs villes du pays avec encore plus de 230 interpellations hier soir à Paris. Dans ce journal également, Olivier Dubois de retour en France après plus de 23 mois de détention. Le journaliste, désormais ex-otage des djihadistes au Mali, a atterri il y a quelques minutes près de Paris. À suivre aussi le premier panier RTL des voitures d'occasion, des voitures de seconde main mais dont les prix augmentent et qui sont parfois plus chères que les neuves. La question du jour sur notre site rtl.fr, Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France de football. Est-ce, selon vous, le meilleur choix? Et puis juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture avec aujourd'hui Steven Bellery qui viendra nous parler du nouvel album de Christophe Maé.
Tous ces sujets évidemment au 32-10 à partir de 13h. J'ajoute Jean Dujardin qui a évoqué dans Paris Match sa nouvelle paternité tardive. Avez-vous déjà eu, êtes-vous devenu papa après 40 ans ou 50 ans? Vous pourrez nous répondre en même temps que Jean Dujardin dit à 30 ans, on est sur soi, on a envie d'en découdre, on cherche à se prouver des choses et les enfants en pâtissent forcément.
Jean Dujardin qui sera l'invité de Julien Cellier ce soir dans RTL Soir à partir de 18h.
Les papas ont la parole.
Mais avant 18...
Les vieux papas.
C'est bon, je peux y aller Pascal ou pas?
Je vous en prie.
Merci. Peggy,
oui, Céline.
Avant 18h, quel temps sur la France?
Alors ça s'améliore par l'ouest, hein. Cet après-midi on va retrouver des éclaircies, juste quelques gouttes ici ou là, mais alors vraiment pas grand chose. Et sur l'est, notamment entre les Pyrénées et le nord-est, là on a un ciel qui va s'ennuager encore plus avec encore quelques averses entre les Ardennes et le Massif central. Dans le sud-est, un temps plus sec et même plus lumineux entre la Côte d'Azur et la Corse, tout ça sous des températures qui sont en hausse, et en tout cas douces pour la saison, 13 à Metz, 14 degrés à Bourges, 15 à Orléans cet après-midi, 16 à Caen et Nantes, 17 à Nice, 18 à Tarbes et 19 à Marseille.
Merci Peggy.
RTL Midi.
Olivier Dubois a atterri en France. Le journaliste, désormais ex-otage, détenu pendant près de 2 ans par des djihadistes au Mali, vient de descendre de l'avion à Villa Coublay, Émilie Beaujard.
Oui, ça y est, il est en France. Olivier Dubois est descendu souriant du Falcon de la République française. T-shirt noir, sac en bandoulière. Il s'est tout de suite dirigé vers ses proches qui l'attendaient. Il est tombé dans les bras de son père et de sa demi-sœur. De longues embrassades collées serrées après 2 ans de séparation forcée. Puis le journaliste a été accueilli par le président de la République. Les deux hommes ont échangé quelques mots. Puis ils se sont tous dirigés vers le pavillon d'honneur de la base aérienne. Loin des caméras, Olivier Dubois va pouvoir retrouver d'autres proches. Il était déjà dans l'avion avec sa compagne et ses 2 enfants qui ne souhaitent pas apparaître en public. L'ex-otage va maintenant s'entretenir avec le président de la République. Emmanuel Macron n'a pas prévu de s'exprimer. Olivier Dubois le fera peut-être un peu plus tard. Ses collègues nous expliquent qu'il est très fatigué. Sa libération puis son périple entre le Nord-Mali où il était détenu et le Niger a pris plusieurs jours dans des conditions périlleuses.
Émilie Beaujard sur la base de Villa Coublay pour RTL.
Emmanuel Macron qui, après avoir accueilli Olivier Dubois, va reprendre le cours de ses consultations.
Le chef de l'État doit déjeuner avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale avant une réunion avec les parlementaires de la majorité ce soir. Tout ça avant donc son passage télévisé de demain, puisque demain, à 13h, le chef de l'État répondra aux questions de nos confrères de TF1 et France 2.
À la veille donc d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi.
Car malgré l'adoption du texte par 49-3 hier, les opposants n'ont pas l'intention de déposer les armes, mais pour faire durer la mobilisation, eh bien il faut de l'argent. La CGT tente donc d'alimenter ses caisses de grève en multipliant les actions. C'était le cas ce matin encore devant un supermarché de Dombasle sur Meurthe, c'est près de Nancy, Dimitri Ramelot.
Oui, aux entrées et sorties du parking.
Mobilisation contre la réforme des retraites, les cheminots, 14 jours de grève, une petite pièce, une petite denrée pour survivre.
Une quinzaine de militants CGT, chasubles rouges enfilés, arrêtent chaque voiture.
Manifestation jeudi.
On y sera. Je fais les 3-8, j'ai pas envie de finir à 65 ans, même encore plus par la suite. On n'a pas envie de finir sur les rotules. Hein.
Et près d'un conducteur sur deux ouvre son porte-monnaie pour mettre dans la fente de la caisse de solidarité en carton une pièce ou un billet.
J'ai donné 5 euros parce qu'il faut soutenir, c'est une grosse galère. Et puis avec la réforme, là encore, qui nous a passé hier sous le nez. Enfin, donc soutien à tous, il faut se battre.
Et en une heure seulement, la caisse compte plusieurs dizaines d'euros pour la plus grande satisfaction d'Aurélien, secrétaire général de la section locale CGT Cheminots.
On sait que les gens, ils ont cette solidarité. Et si Macron a réussi quelque chose, c'est au moins réunir la solidarité entre les travailleurs.
Et ce type d'opération sera renouvelé ponctuellement jusqu'à la reprise du travail voté en Assemblée Générale.
Dimitri Ramelot à Dombasle-sur-Meurthe. Donc pour RTL, la CGT et les syndicats toujours mobilisés dans les raffineries. Les autorités ont ordonné de première réquisition de personnel tôt ce matin au dépôt de Fos-sur-Mer près de Marseille. Dépôt bloqué immédiatement par les grévistes. Les forces de l'ordre sont sur place alors que les Bouches-du-Rhône étaient particulièrement touché déjà par les pénuries de carburant avec plus d'un tiers des stations à sec hier.
Et la contestation passe aussi par ces manifestations spontanées qui se répètent chaque soir dans plusieurs villes du pays.
Des rassemblements parfois émaillés d'incidents à Rennes, Toulouse ou encore Paris, la capitale où 234 personnes ont été interpellées hier soir, Thomas Proto.
Oui, interpellation massive dans la capitale hier. Plusieurs petits cortèges mobiles ont parcouru les rues de Paris jusqu'à 2h du matin. Des cortèges accompagnés de nombreux incendies de poubelles. Il y a eu 240 interventions de pompiers. Les tas d'ordures sont partout, vous le savez, en raison de la grève des éboueurs. Il y a aussi eu des débuts de barricades rapidement évacuées, mais pas d'incidents majeurs. 2000 manifestants ont été décomptés par la préfecture de police, dont beaucoup de jeunes, d'après les reporters de RTL. 10% donc ont été arrêtés. C'est un ratio assez élevé tout de même.
Thomas, il y avait déjà eu des centaines d'interpellations depuis jeudi. Pour quelle suite judiciaire ?
Eh bien, très peu, c'est à souligner. Jeudi soir, 9 déferrements pour 292 interpellations. Vendredi soir, 5 déferrements pour 64 interpellations. Samedi soir, 26 déferrements et autres mesures alternatives pour 126 interpellations. Pourquoi ? Eh bien, parce que les magistrats ne trouvent souvent aucune infraction à poursuivre dans les PV de garde à vue des manifestants. Il faut des faits précis, un projectile lancé sur les forces de l'ordre, par exemple. Des avocats dénoncent depuis quelques jours des arrestations arbitraires pour casser le mouvement social, je cite, assertion fermement démentie ce matin par le préfet de police, Laurent Nunez, qui assure que toutes les interpellations sont justifiées.
Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL. Les forces de l'ordre très attentives au rassemblement qui se prépare à partir de vendredi dans le Poitou. Les opposants au projet de méga-bassine ont prévu un deuxième week-end de rassemblement, selon une note des services de renseignement qu'RTL a pu consulter et qui évoque de possibles sabotages et actions violentes. Entre 7 et 10 000 personnes sont attendues sur place, dont plus d'un millier d'éléments radicaux.
RTL Midi. Vous connaissez déjà bien notre panier RTL sur les produits du quotidien. Voilà désormais le panier RTL sur les voitures d'occasion.
Et c'est Christophe Bourreau qui se charge de surveiller pour vous le prix de ces véhicules de seconde main grâce aux données d'AutoVisa qui épluchent des milliers d'annonces sur la centrale. Christophe, il en va pour les voitures d'occasion comme pour l'alimentaire, l'inflation continue.
La hausse représente en moyenne 1412 euros en à peine 3 mois. Comptez aujourd'hui pour une voiture d'occasion de moins de 8 ans, 22 552 euros. Ainsi, dans notre panier, 9 modèles sur 11 sont touchés par l'inflation. Le plus frappant concerne la Dacia Sandero, voiture la plus vendue en France, dont les prix ont grimpé de 4,5% pour atteindre les 11 997 euros, c'est-à-dire qu'elle est 7 euros plus chère en occasion, en raison des délais d'attente parfois longs. En effet, les clients, préfèrent trouver leur bonheur dans une seconde main disponible immédiatement. Enfin, en raison du tarif très élevé des électriques dans le neuf, on se tourne de plus en plus vers l'occasion. Plus 4,3% pour la Toyota Yaris, ça c'est une hybride, c'est 680 euros d'augmentation, mais c'est le Peugeot Partner électrique qui explose les compteurs depuis janvier. Plus 24%, c'est 4000 euros d'augmentation.
Christophe Bourreau, 4000 euros quand même pour RTL.
Et puis du football, c'est déjà le patron des Bleus, Kylian Mbappé, en est maintenant officiellement le capitaine.
Didier Deschamps s'était laissé un peu de temps pour annoncer le nom du successeur d'Hugo Lloris, mais le choix s'est imposé assez vite, Eric Silvestro.
Oui, l'histoire ne retiendra pas si le sélectionneur a donné le pouvoir au prodige de Bondy ou s'il l'a pris tout seul, mais cette promotion résonne comme une évidence. À 24 ans, Kylian Mbappé a déjà laissé une trace dans le passé des Bleus. On incarne le présent et marquera sans doute encore le futur. Son leadership ne se limite plus au terrain avec son triplé en finale de la Coupe du Monde, ses prises de position sur Noël Le Graët ou les accords de sponsoring de la fédération, sa capacité à gérer toute forme de pression et ses performances en font un capitaine dans la lignée des Platini ou Zidane, au détriment de l'autre candidat naturel au brassard, Antoine Griezmann.
Justement, le joueur de l'Atlético ne l'a pas mal pris.
Alors on va dire qu'il a encaissé la décision de Didier Deschamps, car l'expérience internationale, la régularité et la rondeur plaidaient plutôt en sa faveur. Son statut de chouchou en prend un coup, mais le sélectionneur avait déjà hier déminé la polémique.
Ne commencez pas à parler de déçu ou de quoi que ce soit. Si un critère, c'est la légitimité, ça ira toujours dans le sens du bien de l'équipe. Il n'y a pas à avoir de déçu ou pas, parce que c'est l'intérêt commun et l'intérêt de chacun que tout le monde tire dans le même sens.
Il reste qu'à 32 ans avec les départs de Lloris, Varane, l'absence de Pogba et même si Giroud est encore là, Antoine Griezmann pourrait se sentir isolé et s'interroger sur son avenir en bleu assez rapidement.
Ça s'est joué à quelques semaines pour que Kylian Mbappé soit le capitaine le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France. Régulier, hein, je parle. Et Michel Platini était plus jeune que lui.
Mais Hugo Lloris aussi était plus jeune. Encore plus jeune que Michel Platini. 23 ans. 24 pour Platini.
C'est une encyclopédie, Eric Silvestro. Vous ne le collez pas comme ça, Pascal. Merci, Eric. La météo, Peggy Broche, le printemps est arrivé tard hier soir et il a emmené avec lui sa douceur.
Exactement, c'est comme c'est joliment dit. De merci. 13 à 16 degrés sur toute la moitié nord. On est souvent 2 degrés au-dessus des normales. 16 à 19 degrés dans le sud pour cet après-midi. Alors, on a une perturbation très peu active qui glisse vers l'est du pays. On va retrouver un ciel plus nuageux au fil des heures entre le sud-ouest et le nord-est, avec encore quelques gouttes entre le massif central et le nord-est. Ça reste sec sur le sud-est et surtout plus lumineux entre la Côte d'Azur et la Corse. Et sur l'ouest, on va retrouver des éclaircies entre la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, en allant jusqu'en Bretagne, avec quelques gouttes ici ou là, mais vraiment pas grand-chose. Ce sera très localisé. Donc, et un peu de vent sur les bords de Manche.
Merci, Peggy.
Dans un instant, Emmanuel Macron parle demain à 13h. C'est peut-être déjà une surprise qu'il parle à la mi-journée. Thomas Desprez sera avec nous et avec Marie-Bénédicte Allaire pour analyser ce choix du président.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Pro. RTL Midi, Pascal Pro et Céline Landreau.
Ce sera donc demain à 13h. Le président de la République a donné rendez-vous aux Français. Il sortira du silence dans un entretien accordé à nos confrères de TF1 et France 2. Emmanuel Macron, très attendu évidemment sur le dossier des retraites, alors que la réforme a été adoptée grâce au 49-3 hier soir. Mais que la contestation continue dans la rue. On vous retrouve, Marie-Bénédicte Allaire et Thomas Desprez à l'Assemblée nationale. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
À quoi doit-on s'attendre demain à 13h ?
Alors, on en parle tout à l'heure à midi, en fait, à pas grand chose. En tout cas, pas du spectaculaire, pas des grandes annonces. Ce matin, il réunissait ses troupes, des ministres, les chefs des groupes de la majorité. Ils étaient une petite dizaine. Et ce qu'on dit, c'est qu'il a évacué les trois demandes récurrentes de l'opposition. Pas de dissolution, pas de référendum, pas de remaniement. Ça laisse pas grand chose.
Et puis, il faut pas oublier qu'il y a l'étape du Conseil constitutionnel. Elisabeth Borne doit le saisir, ce qui permet d'avoir une réponse rapide. Une semaine, au moins d'un mois, quand c'est les parlementaires, ce qui lèverait une épée de Damoclès.
Ça offrirait aussi une porte de sortie, en fait, si finalement le Conseil d'État décidait de censurer tout ou partie de la réforme. Emmanuel Macron pourrait passer à autre chose, alors ce serait pas très glorieux, mais c'est déjà ça.
Le choix de 13h peut étonner. Il y a moins d'audience à 13h qu'à 20h. Les grandes interventions Covid étaient à 20h. Alors, est-ce que c'est une façon de dédramatiser, de dire au fond, ça ne mérite même pas le 20h?
Oui, il y a ça. Enfin, c'est pas, ça ne mérite même pas le 20h, mais c'est le format du journal de 13h. C'est, et puis le fait de répondre à des questions et pas de faire une adresse solennelle, c'est une façon de jouer la proximité, d'être effectivement moins solennel et peut-être de moins donner l'impression d'un président psychorigide droit dans ses bottes.
Pascal, tout à l'heure, vous nous demandiez un peu le 13h s'il avait l'habitude de parler à 13h. On a regardé dans les archives. Depuis son élection, il a donné au moins 3 interviews à 13h. Deux fois, c'était pour le 14 juillet. Ça, c'était assez solennel.
Ça, c'est classique, le 14 juillet. On la met à part, celle-là, du 14 juillet.
La dernière fois, c'était en avril 2018, dans le journal de Jean-Pierre Pernaut. C'était dans une école à Pertuis, dans l'Orne. À l'époque, les sujets, ce n'étaient pas des sujets légers. Il y avait déjà de la colère. La grève à la SNCF, les 80 km/h, des sujets en fait, qui concernent les Français qui n'habitent pas forcément dans les grandes villes, des sujets de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, il y avait du monde devant la télé. Il y avait 6 millions de téléspectateurs.
Oui, mais
devant
le soir,
il
y en a davantage.
Oui, mais 6 millions, c'était sur une seule chaîne. Et d'ailleurs, il y avait eu des annonces. Hein, parce qu'à l'époque, c'était à ce moment-là qu'il avait annoncé.
Et ça ne vous
étonne
pas, ce choix de 13h?
Bien sûr que si, c'est étonnant. Mais on peut politiquement comprendre le choix qu'il fait pour parler finalement à cette France qui n'est pas que la France des villes, qui n'est pas que la France des cortèges violents. Parce qu'il y a des gens qui manifestent aussi, on l'a vu, dans les plus petites villes, dans les villes périphériques. Et il veut aussi s'adresser à cette France-là. Enfin, Pascal, vous savez bien ce qu'on dit du journal de 13h, le journal de la France profonde.
J'entends bien.
Ce qu'on dit, c'est normal qu'Emmanuel Macron aussi s'adresse à cette partie-là de son électorat.
Alors justement, Thomas, vous parliez des cortèges. Cette intervention présidentielle aura lieu à la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation annoncée par les syndicats ce jeudi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en prenant la parole, d'alimenter encore un peu plus la colère?
Alors c'est effectivement un risque. Ça va dépendre du ton qu'il adopte. Il doit veiller à chacun de ses mots. Il doit pas donner l'impression d'être arrogant ou de rien avoir entendu. Il doit faire attention à montrer qu'il a compris. Et puis, ce qui peut dépendre aussi, ce qui peut alimenter aussi la mobilisation, c'est peut-être la façon dont les choses se passent, les gardes à vue, en masse, les images qu'on voit. Ça aussi, ça peut être une façon d'alimenter la colère. Mais en tout cas, Emmanuel Macron, lui, doit être très prudent sur les mots qu'il emploie.
Et pour la suite du quinquennat, il fixera un cap demain, on doit s'attendre à ça?
Alors, il a d'ores et déjà dit ce matin devant ses troupes qu'il n'excluait pas de reprendre la parole d'ici 3 semaines, 1 mois, une fois que les choses seront un peu retombées et une fois que ses proches lui auront fait des nouvelles propositions.
Si ça retombe.
Mais ce qu'il va aussi dire demain, vraisemblablement, c'est qu'il est ouvert à des aménagements du calendrier, avec la possibilité de changer un peu l'ordre des textes. Le prochain texte qui devait arriver à l'Assemblée, c'était une réforme de l'immigration. C'est pas vraiment quelque chose de consensuel. Et dans son entourage, certains plaident pour changer un peu l'ordre, avec peut-être une réforme du travail, une réforme sur le partage de la valeur, une autre
sur la fin de vie. Comment renouer après cette séquence? Alors, c'est ça qui sera difficile.
Ce qu'expliquent les conseillers, c'est que récemment, en fait, les syndicats ont déjà accepté de se remettre autour de la table pour parler du partage de la valeur. Vous savez, on parle parfois des super profits. Et ben voilà, c'est une des pistes sur lesquelles Emmanuel Macron pourrait intervenir.
Merci beaucoup Thomas Després, merci Marie-Bénédicte Allaire. On suivra évidemment demain à 13h cette intervention présidentielle, tout ce qu'il faudra en retenir, tout ce qu'il faudra comprendre de la parole présidentielle, ce sera évidemment analysé, décrypté sur RTL.
Qu'attendez-vous de la prise de parole d'Emmanuel Macron demain? C'est une question que nous allons vous poser en priorité dans une dizaine de minutes au 32-10. A tout de suite avec la culture.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. Le meilleur. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et aujourd'hui, le retour de Christophe Maé.
Chanteur populaire qui revient avec C'est drôle la vie, son 6e album. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Christophe Maé qui vous a donc reçu dans son studio d'enregistrement chez lui, dans le sud, près d'Aix-en-Provence.
J'aurai l'occasion d'évoquer avec lui la manière d'écrire et de composer. Christophe Maé s'amuse, on le sait, à nous faire voyager dans chacun de ses projets. Il y avait eu les rythmes caribéens, la musique africaine, une halte à la Nouvelle-Orléans, nouveau départ ici. Et voici comment il a eu l'idée de la destination.
Mon quotidien, quand je suis pas en tournée, c'est je me fais une petite heure de cardio, de sport le matin, et puis je viens là. Je viens dans ce studio où j'écoute de la musique, où je cherche l'inspiration, quoi. Par exemple, il y a un an et demi, je suis ici, et j'écoute un matin, là, j'écoute un mix de César et Evora. Et dans ce mix de César et Evora, je vais entendre une voix, celle de Suzanne Pires, capverdienne. Elle va me hanter, elle va pas me lâcher, cette voix. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, parce que j'avais pas de connexion au Cap-Vert. Et puis, finalement, je suis allé là-bas, et il y a eu un truc immédiat. Quoi, elle a une forte énergie, elle m'a reçu à bras ouverts, je me suis retrouvé chez elle en famille à partager un repas. Voilà, on a composé ensemble Pays des Merveilles et c'était fou parce que là-bas je me suis retrouvé à aller enregistrer avec elle dans un petit sous-sol d'une maison, un 20 mètres carrés qui était l'endroit où enregistrer César et Evora. Ses 3 derniers albums, c'est le début de l'album quoi. C'est pas un album capverdien, mais la couleur des instruments en tous les cas, cavaquinho, contrebasse, percu, accordéon, ça c'est vraiment la musique. musique qu'on en entend là-bas. Ça me tenait à cœur de récupérer cette couleur pour avoir une identité sur tout l'album.
Buvons la vie à la bouteille, chérie. Allons prendre l'air. Du côté du Cap Vert, du côté du Cap Horn, on a écouté la mer, a écouté la monde. Y'a des voix là-bas qui voyagent, chérie. Mets de l'amour dans tes bagages.
Le morceau Pays des Merveilles.
À 47 ans, Christophe Maé semble faire un premier bilan de sa vie dans son nouveau disque, Steven.
Oui, si les temps ont changé, j'ai toujours le même cœur, chante-t-il dans un nouveau morceau.
Il me vient des phrases pendant que je cours. Pour vous donner une idée, je sais pas, il y a un an et demi, suite d'une conversation avec mes enfants, me vient une phrase « trop vieux pour être jeune ». Mais ça me faisait chier, j'avais envie de trouver la réponse. Et elle est venue très rapidement, en courant, bizarrement, mais trop jeune pour être vieux. Et j'avais vraiment envie de parler de cet entre-deux-âges de transmission, du temps qui passe. Je veux pas perdre mon âme de gamin, quoi.
Finalement, cet album aussi, c'est l'album d'un mec au milieu de sa vie.
Ouais, mais j'ai l'impression d'être au tout début encore.
Il est temps de changer. L'eau des fleurs.
Trop jeune pour être vieux, Christophe Maé, qui a été révélé en 2005 dans la comédie musicale Le Roi Soleil, mais sa vie en fait a basculé 2 ans avant, Steven.
Oui, quand il a rencontré dans un restaurant en Corse celle qui allait devenir la femme de sa vie, l'amour qui dure, fil rouge de ce nouveau disque, alors qu'il va bientôt célébrer 20 ans de relation avec Nadège.
J'ai trouvé ma moitié, quoi, j'ai envie de dire. Même si j'avais cette envie de me réaliser, de faire de la musique, elle m'a mis en confiance, quoi. Quand j'ai le doute sur quelque chose, je suis quasi sûr qu'elle va poser le doigt dessus. Elle est sans pitié, quoi. Ça m'a toujours permis de me remettre en question. On a tout fait ensemble. Elle m'aidait à porter mes enceintes pour jouer dans une terrasse de resto, de bar.
Vous a connu, vous viviez dans une chambre de bonne.
Ouais,
ça fait 20 ans d'amour.
Elle me dit, ouais, viens, j'ai un appart à Paris. J'avais un pied à terre, en fait, à Paris, une petite chambre de bonne. Et moi, je faisais mes saisons, donc mais j'avais gardé cette chambre de bonne là-haut, Porte Dauphine. Elle avait débarqué, on était dans 11 mètres carrés, les toilettes sur le palier. On était déjà les plus heureux. J'ai jamais stressé de me dire, ouais, est-ce que ça va se passer, pas se passer. Vous savez quoi? Moi, quand j'ai commencé à faire la Manche à Saint-Tropez, j'avais 18 ans. Le fait d'exister dans le regard de l'autre, j'avais déjà réussi. Je savais que j'allais faire ça toute ma vie.
Dans cet album, vous chantez « Ma femme me saoule, elle fait la gueule, ça fait quasi 20 ans que je purge ma peine ». Elle a aimé la chanson, Nadège?
Pour moi, c'est une déclaration d'amour, rien de plus. Je pense que je la saoule bien plus qu'elle.
Ma femme me saoule, elle fait la gueule, mais je la bouge, la laisse jamais seule.
L'amusant « Ma femme me saoule ».
Avant de quitter le studio de Christophe Maé, l'artiste a pris sa guitare rien que pour nous.
Et oui, tiens, voici comment est né le titre « L'amour ».
En fait, j'aime bien, par moments, perdre mon temps. Je fais des trucs qui me prennent 4-5 heures. Il y a quelques mois, je suis là. J'ai une phrase, c'est...
Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent. Ça fait pleurer les gens, l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien tout court.
Et je sais qu'à partir de ce truc-là, sur ces deux accords, je sais que je vais faire une chanson. Au fond de moi, j'en suis persuadé, quoi. Ouais, 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 il y a un truc qui est assez viscéral, quoi. C'est-à-dire que ce truc-là, je peux le faire tourner, mais pendant des heures. Ça me rend fou. J'appelle Felipe, il vient à la maison, et ensemble, on trouve le refrain.
On est bien, mon amour. L'amour,
la suite sur C'est drôle la vie, le nouvel album de Christophe Maé qui vient de sortir, tournée des festivals cet été, tournée des Zéniths dès le mois de septembre.
Tournée que ne ratera pas Peggy Broche.
Ah mais c'est clair, faut absolument le voir sur scène, c'est un mec de scène, il est absolument génial.
Et là il part avec une dizaine de batucaderas, vous savez ces femmes capverdiennes.
C'est génial.
La percussion, elles vont toutes avec lui en tournée.
Merci.
Là, c'est le duo avec Amadou et Mariam, version finale.
Merci.
Yo donc.
Merci Steven.
Pardon,
un
Steven.
Duo avec un duo, qu'est-ce qu'un duo avec un
merci
duo.
Steven, et cette séquence nous permet toujours, grâce à vous et grâce à tout le service culture, d'entendre en longueur un artiste, et c'est ça qui est formidable. 12h59, la pause, les auditeurs.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute. RTL.
Et 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Qu'attendez-vous de la prise de parole d'Emmanuel Macron demain? Nous sommes avec Romuald, qui est chef d'entreprise à Troyes. Bonjour Romuald.
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde.
Qu'attendez-vous du chef de l'État?
Là, plus rien.
Comme ça, vous ne serez pas déçu.
Non, plus rien.
Ce qui est un avantage. Nous attendons en revanche beaucoup de Céline Landreau tous les jours entre 12h et 13h et elle va nous donner les dernières informations, en tout cas le rappel des titres peut-être.
Bah, l'information principale, vous venez de la donner, Pascal, c'est Emmanuel Macron qui prendra la parole demain à 13h. Le président de la République, très discret depuis le début des discussions sur la réforme des retraites, qui répondra à nos confrères de TF1 et France 2, alors que cette réforme précisément a été adoptée hier à l'Assemblée nationale via le 49-3 et qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce jeudi. En attendant, la grève se poursuit notamment dans les raffineries avec de premières réquisitions de personnel ordonnées par les autorités tôt ce matin à Fos-sur-Mer près de Marseille. Le dépôt bloqué dans la foulée par les syndicats, les forces de l'ordre sont sur place. Et puis l'autre image de la matinée, c'est bien sûr celle d'Olivier Dubois de retour en France. Le désormais ex-otage retenu pendant près de 2 ans au Mali par des djihadistes a atterri peu après midi près de Paris. Il a été accueilli dans la foulée par le président de la République Emmanuel Macron. Peggy Broche, encore tout sourire après avoir entendu Christophe Maé.
Oui,
sourire aussi pour le temps. C'est moins radieux.
C'est moins radieux, ça c'est sûr, on est bien d'accord. On a une légère perturbation, alors je dis légère, elle est peu active. Elle donne quelques pluies, elle a donné quelques pluies sur l'ouest, elle se décale vers l'est. On retrouve quelques gouttes encore entre le nord-est et le massif central. Les nuages se décalent avec. Ce sera bien nuageux, donc du sud-ouest au nord-est cet après-midi, avec un ciel voilé dans le sud-est. Ça restera lumineux entre la Côte d'Azur et la Corse. Et sur l'ouest, on va retrouver plus d'éclaircies cet après-midi, entre la Nouvelle-Aquitaine, en allant jusqu'à l'île de France, les Hauts-de-France et la Bretagne, avec encore quelques gouttes ici ou là, pas grand-chose, et puis un peu de vent sur les bords de Manche. Tout ça sous des températures qui sont toujours douces pour la saison. On est toujours 2 degrés au-dessus des normales, 13 au Havre cet après-midi, 14 à La Rochelle, 15 degrés à Dijon et Clermont-Ferrand, 16 à Paris et Mulhouse, 17 à Lyon, Bordeaux et Montpellier, 18 à Nîmes et Ajaccio, et jusqu'à 19 degrés cet après-midi à Toulon.
Et demain, Peggy ?
Demain, on a une perturbation, une nouvelle perturbation qui rentre sur le pays dès ce soir par la Bretagne. Elle va donner un temps pluvieux, alors avec quelques averses, des passages pluvieux entre la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France le matin, avec du vent. Ailleurs, ce sera bien nuageux sur le reste de la moitié nord, un temps plus lumineux en allant vers le sud. Et dans l'après-midi, ce sera couvert avec des averses et du vent au nord de la Loire, bien voilé du sud-ouest à l'Alsace et plus lumineux en allant vers les Alpes et la Méditerranée. Tout ça sous des températures qui seront en légère hausse le matin à l'est et stationnaires à l'ouest. Dans l'après-midi, les maximales seront en hausse, globalement comprises entre 13 et 18 degrés au nord et 17 à 22 au sud.
Merci beaucoup Peggy Broche.
Merci Peggy, merci Céline, merci Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Et nous partons donc avec les auditeurs comme tous les jours à 13h05.